une communauté différente et nouvelle pour moi, de voir les communautés grandir et voir des visages nouveaux. Et alors, comme Alex a dit, je suis d'origine américaine, mais j'habite en France depuis bien plus longtemps que j'ai jamais habité aux États-Unis. En fait, je suis issu de la ville de New York. Et donc, pour ceux qui connaissent les États-Unis, un New Yorkais n'est pas un vrai Américain. Les New Yorkais sont rejetés un peu, parce qu'on est trop cosmopolite, et on est considéré comme trop arrogant, etc. Un peu comme les Parisiens en France, hein. Alors voilà, ça c'est le problème d'être né dans une grande ville. Mais bon, on se débrouille tant qu'on peut. Et on habite Marseille, ma femme est parisienne. Vous imaginez un New Yorkais avec une Parisienne? Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'était peut-être parce qu'on est un homme et une femme. Ah oui, je pense que c'est ça. Je sais pas, peut-être les deux. Bon, bref, nous sommes ensemble depuis 44 ans, on a 3 enfants. Et notre fille aînée vient d'accoucher en mars, donc on est grands-parents depuis 6 mois. Et donc on est vraiment heureux. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous quelque chose qui travaille mon propre esprit. Et c'est une question qui travaille chacun de nous, je crois. Pourquoi, en tant que chrétien, pourquoi comme individu, les changements sont aussi difficiles? Nous disons qu'on confesse certains ici, Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu comme notre Créateur. Et on a parfois des envies qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Parfois des rêves pendant la nuit qui ne correspondent pas non plus à la volonté de Dieu. Parfois des paroles qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Parfois des gestes qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et parfois simplement on baisse les bras parce qu'on ne veut pas faire le bien avec lequel Dieu nous appelle à faire. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole que tu nous donnes pour éclairer nos routes, mais pas simplement pour nous éclairer pour nos routes ici sur cette terre, pour nous guider, mais aussi pour changer nos idées, et aussi pour adoucir notre cœur et transformer notre volonté. Seigneur, cet après-midi, nous voulons méditer cet épître de Paul aux Romains, chapitre 7, quelques versets, mais poser cette question, pourquoi Seigneur c'est tellement difficile d'être transformé? Accorde-nous par ton esprit Seigneur le discernement nécessaire, la sagesse nécessaire qui vient de toi, afin qu'on puisse te glorifier dans nos réflexions, dans nos paroles, afin qu'on puisse être un peu plus ressemblant à Jésus-Christ en sortant d'ici cet après-midi. En son nom. Amen. Vous savez peut-être que l'épître de Paul aux Romains était un canevas assez large. Paul, il a voulu expliquer à l'Église à Rome la A à Z de la foi chrétienne. Il explique au début de cet épître que tous ces condamnés, tous ces perdus, même ceux qui étaient nés parmi le peuple de Dieu, ils avaient la loi, ils sont condamnés. Et ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu, ni la Bible, sont condamnés aussi parce qu'ils ont leur propre conscience. Et donc chaque culture, chaque groupe ethnique dans le monde, chaque nation, même s'ils n'avaient jamais rencontré la Bible, ils étaient condamnables et condamnés devant Dieu. Parce que dans leur propre culture, il y avait des lois, des idées, qu'ils ont violé eux-mêmes. Peu importe la loi, peu importe l'idée, personne n'était capable de mettre en pratique ses propres codes éthiques. Alors Paul dit, tout le monde est dans le même panier. Ceux qui ont la Bible, ceux qui n'ont pas la Bible, on est tous perdus. Alors il va faire des remarques par rapport au peuple qui a reçu la parole de Dieu, parce que cet peuple était appelé d'être des témoins dans ce monde, d'être la lumière de ce monde, d'attirer les nations vers ce peuple, vers le Dieu créateur. Ils ont échoué. Là, on le sait, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Mais Dieu n'a pas échoué. Il a envoyé son Fils unique. Et lui a obéi complètement à la parole de Dieu. Il a obéi à tel point qu'il pouvait donner son propre corps comme un sacrifice vivant sur la croix. Et il n'a pas dérobé de cette responsabilité. Et puisqu'il est infiniment Dieu, la valeur de son sacrifice était capable de couvrir la multitude de fautes de chacun de son corps, chaque membre de son corps, chaque personne qui le connaissait et qui un jour connaîtrait. Alors, il rend grâce à Dieu et il donne quelques exemples. Il dit, Abraham a compris cela. Il a fallu vivre par la foi dans la parole de Dieu, dans ses promesses, ce que Dieu avait dit et ce qu'il va faire. Et finalement, il continue son argumentation. Il dit, vous voyez, vous ne méritez rien de ça, tout est par grâce. Alors, Paul, il va poser des questions à Romains chapitre 6. Il va dire, bon, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché? Afin que la grâce abonde. Et Paul va argumenter, certes, non. Et il continue, et vers la fin de chapitre 6, verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Et ensuite, il débarque chapitre 7. Et là, avant d'entrer un peu dans les détails de chapitre 7, il faut que vous sachiez un grand débat théologique sur ce chapitre 7. Est-ce que Paul est en train d'expliquer la situation de chaque croyant aujourd'hui, la lutte intérieure que nous allons voir dans un instant? Ou est-ce qu'il est en train de se référer à un passé qu'il a vécu en tant que juif, pharisien, avant d'être converti? Alors les théologiens, ils se disputent là. Et moi je vous dis, ce soir je ne vais pas résoudre ce problème. Je vous laisse entre les mains de votre pasteur pour cette question. Mais juste pour vous montrer qu'on peut l'interpréter de différentes manières, si vous prenez la fin de chapitre 6, il dit « C'est la vie éternelle en Christ, notre Seigneur », et on dit chapitre 7, c'est une parenthèse où Paul va réfléchir sur son passé en tant que juif. L'argument reprend chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc le fin de chapitre 6 s'enchaîne très bien avec le premier verset de chapitre 8. Et donc chapitre 7, c'est une espèce de tangent en parenthèse. Par contre, quand on lit chapitre 7, on dit, c'est pas en parenthèse, c'est la description parfaite de ma vie. Écoutez pourquoi. On va lire à partir de verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car ce que je accomplis, je ne comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je haïs, voilà ce que je fais. C'est ce que je ne veux pas, je le fais. Je le déclare d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Quand je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis de même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Alors, si je posais des questions à n'importe qui dans cette pièce, vous allez dire, oui, ça c'est moi. Je veux faire du bien, mais j'ai fait du mal. Chacun de nous peut se référer à nos actions d'aujourd'hui ou hier, nos paroles, nos gestes, ce qu'on avait dit, ce qu'on n'aurait pas fait, on a fait. Et on ne comprend pas. Et donc c'est pourquoi l'énigme, est-ce que ce passage parle de notre vécu maintenant? Ou est-ce que c'est Paul qui dit, non, écoutez, avant que je connaissais Jésus-Christ, je connaissais la loi, et cette loi c'est important afin que je sois condamné par la loi pour voir que le péché est né à travers la loi de Dieu, et il n'y a pas d'espoir à part en Jésus-Christ. Et donc, comme je dis, l'énigme reste entier. Et je ne donne pas mon point de vue, je vous laisse entre les mains de votre pasteur, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ici, dans ce passage, Paul est en train de bâtir un cas, une argumentation qui est formidable, parce qu'il amène les gens à comprendre qu'on est justifié en Christ. Il nous amène à comprendre qu'on est sauvé par la grâce. Et la fin de ce grand discours de Paul, est chapitre 8, de l'épître de Paul aux Romains, qui va parler du Saint-Esprit. D'ailleurs, si vous voulez comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, chapitre 8, l'épître de Paul aux Romains, c'est le meilleur chapitre qui existe pour étudier l'œuvre du Saint-Esprit. Et il y a un verset clé pour moi, qu'on va regarder tout à l'heure, un peu. Christ est en vous. Le corps est vrai, est mort à cause des péchés. mais l'esprit est vie à cause de la justice. Chapitre 8, verset 10. Alors, Paul, il dit tout est par grâce. Et là, il y a un autre problème dans l'histoire de l'Église. Et c'était un problème qui existait en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était le grand pasteur théologien Dietrich Bonhoeffer qui a mérité ce passage. Il n'était pas content avec les chrétiens en Allemagne. Parce que les chrétiens en Allemagne laissaient aller dans toutes sortes de dérives. Ils toléraient toutes sortes de choses. Et quand quelqu'un les reprochait, il disait, oui, mais tout est grâce, tout est permis. Alors Bonhoeffer a écrit pas mal de méditations autour de ce thème pour essayer de convaincre les chrétiens. Oui, tout est par grâce. Et donc, ça montre à quel point on devrait aimer le Seigneur et écouter sa voix. C'est comme dans une famille, un enfant, il est aimé. Il n'y a pas de question que l'enfant n'est pas aimé. Tout est par grâce dans sa vie. Il ne méritait jamais ça. Et si l'enfant dit, oui, mais je continue à désobéir parce que mes parents vont m'aimer quand même. Alors, vous voyez bien que cet argument ne tient pas debout. Et la question, donc, pour nous, cet après-midi, pourquoi on trouve cette énigme, ça va et vient entre, oui, oui, je n'accomplis pas ce que je veux, bien que je sais que je devrais être différent, et pourquoi et comment je peux être transformé? En fait, nous comprenons bien qu'il y a une lutte entre notre homme naturel et cet esprit de Dieu, le surnaturel dans notre vie. Notre chair est attirée par les tentations, et nous savons que ces tentations sont contradictoires avec l'Esprit de Dieu. Et c'est une bataille tellement enracinée en nous, on peut vivre la vie chrétienne comme un échec perpétuel. Et d'ailleurs, c'est intéressant de lire certaines biographies des chrétiens qui témoignaient de leur amour pour Dieu et pour le Christ. Et quand même, ils disaient, la vie était trop dure, c'est un échec perpétuel pour moi, je ne suis pas béni par Dieu, j'ai pas la plénitude du Saint-Esprit. J'ai l'impression que l'Esprit me parle plus. Alors, chaque chrétien passe des moments difficiles. Vous savez, dans le psaume 44, le psalmiste médite, il dit, Seigneur, tu es grand, tu as fait tout ça, et on te loue, mais tu es absent de nos vies maintenant. Pourquoi? Et cette fois-ci, on ne s'est pas détourné de toi, on n'a pas désobéi aux manières conscientes, et tu n'es pas là, tu es silencieux. Alors, il reste des énigmes pour les chrétiens. Combien parmi nous sont contents de notre comportement? Personne. On sait très bien qu'on s'emporte, on convoite, on est jaloux, on est envieux, envieux. Et il y a quelque chose qui lutte contre nous, irréconciliable avec la vie chrétienne. Il y avait un auteur écossais nommé Robert Louis Stevenson. Il a écrit un roman qui s'appelle L'étrange histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et cette histoire a été traduite en français, c'est pas très long, c'est une histoire que je trouve intéressante, surtout qu'il était élevé dans un foyer réformé, Robert Louis Stevenson. Et donc, à travers ce livre, il prend un personnage, le très gentil, le très respectueux Dr. Hyde. Dr. Jekyll. Et Dr. Jekyll, il était bien comme il faut, un médecin très respecté, très respectueux, soignait les malades, et un gentleman. Mais, à l'intérieur de lui, il voyait qu'il avait des pensées qui n'étaient pas saines. Et les nuits étaient troublées par ça. Donc il inventait une potion pour essayer de laisser venir et sortir cet côté malsain en espérant se débarrasser. Et donc, en anglais, le mot « hide » veut dire « cacher ». Et bien que ce soit écrit autrement, l'idée que c'est le fort intérieur, monsieur caché, donc le docteur Jekyll très respecté, et son monsieur Hyde, qui est monsieur caché, qui est pas visible aux autres. Et vous, peut-être vous connaissez l'histoire. Alors, il sortait la nuit, hein, dans l'obscurité, et il faisait du mal. Et une nuit, il a tué quelqu'un. Voilà, ça c'était terrible pour lui, parce que la police londonienne était à la recherche, et il a eu le trou, il ne comprenait pas comment se fait-il qu'il pouvait être aussi mauvais. Et alors, lui, Robert Louis Stevenson, il me semble bien capté la tension entre la vie de tous les jours de quelqu'un et le désir d'être autre chose. L'extérieur, on est correct, on est habillé, j'ai la cravate ce soir, j'ai même tiré mes 4 cheveux dans 3 directions, là. Et voilà, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Ah, ça c'est caché, hein, le côté caché de ce pasteur, il m'appelle révérend, mais vous savez, je suis pas révérend du tout, je suis irrévérend, hein, je suis pas du tout digne de ce titre. Alors, il y a quelque chose dégoûtant à l'intérieur de mon âme, de mon être, des choses qui sont pas dignes d'être respectées devant Dieu. Et c'était pareil. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont très civilisés, etc. Et on n'a pas besoin d'inventer une potion magique pour faire sortir notre mal. On a simplement besoin d'allumer notre ordinateur. Et je connais des garçons qui sont devenus des fans d'ordinateur de tel point qu'ils jouent des jeux collectifs, je sais pas, en communauté, jusqu'à 3h, 4h, 5h le matin. Je connais d'autres garçons qui commencent à jouer l'argent en ligne. Ils quittent leur emploi, ils passent leur journée pour jouer. Ils deviennent très rapides d'analyse. Hein. J'étais impressionné quand quelqu'un m'a montré ça. D'autres, ils se tournent vers la pornographie. Maintenant, pour les filles, je ne sais pas ce que vous faites, mais je sais qu'il y a des hommes qui font ça. Je connais beaucoup mieux les têtes des hommes que les têtes des filles. Vous restez une énigme, madame, pour moi. Bien que je sois marié depuis 44 ans, elle est toujours une énigme, ma femme. Mais j'aime ça, c'est compliqué, voilà, c'est tout. Et moi, pour elle, moi j'ai dit, elle me disait, j'ai un jardin secret. Elle a dit, laissez-moi comprendre. Non, c'est fermé. J'ai dit, moi aussi j'ai un jardin secret. J'ai dit, non, pas du tout, je te connais l'intérieur, l'extérieur, je te connais. Oui, elle a raison. Bon, alors... Qu'est-ce que ça sert de savoir qu'on se laisse aller comme ça? Je connais même des couples en instance de divorce au bout de 2 ans, parce que le garçon jouait sur l'ordinateur dès qu'il entrait de son travail, il s'occupait jamais de sa femme. Une tragédie. C'était un chrétien aussi. Il a quitté tout pour jouer sur l'ordinateur. Et il était resté fidèle, entre guillemets, à sa femme, mais il n'était pas fidèle. Et il était doux, comme un drogué, quoi. Quelqu'un qui avait besoin de ça. Alors, pasteur, j'arrive chez lui. Qu'est-ce que je dois lui dire? Allez, fais plus d'efforts. Allez, redresse-toi. Arrête d'être bête. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va se changer? Je crois pas. Parce que ça vient de l'intérieur. Donc, je vais changer de cap. Je vais être le pasteur gentil. Aimez Jésus davantage. Priez plus. Venez au culte et chantez la gloire de Dieu. Comme ça, vous allez être transformé. Est-ce que ça va marcher ça? Non, c'est ridicule aussi, parce que je vais essayer de lui donner d'autres activités pour replacer une activité malsaine. Oui, on peut dire que c'est mieux de venir au culte. Mais le problème, si on vient à ça, pour simplement qu'on espère, en échangeant une addiction pour une autre, où on est obligé de toujours être là, sans ça on va tomber de nouveau, ça va pas. Parce que ça veut dire l'intérieur n'est pas transformé. En fait, de donner une leçon où on tape sur les doigts et dit « arrête-toi », ça c'est devenir légaliste. Ou si je dis « ça ne fait rien, tu peux continuer », ça veut dire que « vas-y, continue à pêcher ». Ou si je dis « venez, faites ceci, ceci et cela », c'est une autre forme de légalisme. Mais si vous voulez un fond de légalisme positif, aimez Jésus, priez, faites ceci, faites cela, ne faites pas cela, faites ceci. Vous voyez, ça change rien, c'est le comportement extérieur. Alors, on est toujours dans les mêmes pétrins. Vous savez que Saint Augustin, c'est le titre qu'on donne à cet homme, un grand homme, 4e siècle, il raconte son histoire. Et lui, il disait, quand j'étais garçon, mes copains, un jour, on était dans les champs, il y avait un panneau, ne touchez pas à mon poirier, ces pois m'appartiennent. Alors, comme des garçons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont grimpé dans le poirier, ils ont pris des poires. Ils avaient pris trop, ils avaient mangé quelques-uns, le reste, ils ont jeté pour qu'ils pourrissent. Hein? Alors, comment se fait-il qu'un garçon, bien comme il faut, voit un tanneau en disant « Laissez mes poires et ça va le pousser les prendre ». Si le monsieur n'avait pas mis ce panneau, il aurait ignoré le poirier. Hein? Alors, il méditait sur le mal qui était enraciné dans son âme. Et combien il n'aimait pas la loi. Et donc, ce panneau, interdisant ça, il dit « Bon, je vais le faire ». C'est drôle, je voyage beaucoup en tant que pasteur itinérant. Mais parfois, j'entre dans un foyer, quelque chose, et parfois, je trouve une serviette ou une couverture SNCF, Hotel Crafton, ou quelque chose. Alors, je dis, je pose pas des questions, Seigneur, j'ai rien vu, je vais pas le savoir. Mais je n'ai pas l'impression que c'est leur propriété. Mais bon, peut-être le SNCF a voulu se débarrasser, et ils ont acheté ça à un prix coûtant, je sais pas. Mais bon, j'ai pas l'impression, c'est toujours très juste. Que dirons-nous donc? Chapitre 7, verset 7. La loi est-elle péché? Certainement. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Que je n'aurais pas connu le convoitise si la loi n'aurait pas dit ne te convoitera pas. Ici, le péché profitant de l'occasion produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Que sans la loi, le péché est mort. Alors, versets 7 et 8. Et donc, Paul, il reflète encore les réalités. Je vois le panneau. Ah, j'ai pas pensé à faire ça. Maintenant, je vais le faire. Hein? Vous voyez, quand je conduis ma voiture, je vais pas échapper au monde, hein? Hein? Comme vous, les TV, hein? Alors, si je vois un radar, je ralentis. Mais pourquoi je ralentis? Parce que je roulais trop vite avant. Hein? Je suis pas bête. Je veux pas le monde. Mais après, je accélère de nouveau. Jusque le prochain radar. Jusque le jour qu'il y a des radars mobiles qui m'a flashé et ma femme n'était pas du tout contente. Vous voyez, comme j'ai dit, hein, la loi est là et moi j'ai fait ce que je veux. Hein. C'est terrible. Vous trouvez ça, vous aussi, dans votre âme. Hein, ce va-et-vient entre le bien et le mal qui est toujours là. Je crois que chacun de nous peut dire oui. Alors, Dr. Jekyll avait tué quelqu'un. Alors, la trouille d'être pris par les policiers londoniens, l'a réformé, il dit, plus jamais. Et pendant des mois, il n'y avait plus de crimes en Londres. Parce que à ce moment-là, au 19e siècle, il aurait été pendu. Alors, il avait peur de perdre sa vie, et donc, il a arrêté de faire de bêtises. Alors, tout se calmait dans l'histoire, et un jour, le très gentil Dr. Jekyll était assis sur un banc dans un parc, à Londres, et il commençait à voir des gens passer, et là-bas, il voyait quelqu'un qui était un ivrogne, il commençait à le condamner, il voyait des enfants qui n'écoutaient pas la voix de leur mère, il commençait à les condamner, il voyait un prostitué, il commençait à le condamner, et en quelques instants, avec ses jugements des autres, bien qu'il n'ait rien dit, en regardant, il voyait que ses mains commençaient à se déformer, se changer dans les mains de Monsieur Hyde. Alors, il n'avait pas pris de potion. Et alors, il commençait de voir que l'intérieur de son être commençait à vraiment sortir de nouveau, de telle façon qu'il devenait Monsieur Hyde sans besoin de prendre de potion. Et c'était en plein jour. Alors, moi j'ai continué à lire le roman. Je dis, ah bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver une solution. Alors, il court, il se cache. Et il se suicide. Alors, moi, j'ai pensé Robert Louis Stevenson, comme un bon réformé, il aurait dit non, il se tournait vers le Seigneur, il y avait un miracle, tout ça. Mais non. Hyde n'a pas voulu être attrapé par la police. Il avait tellement honte de ça. Il préférait être fin à ses jours plutôt de se tomber devant la justice, être dénoncé comme le bon docteur Hyde, Dr. Jekyll. Parce qu'il avait honte aussi de se révéler qu'il était vraiment. Parce que la réputation de Dr. Jekyll était en jeu. Alors il y avait l'orgueil en plus de tous ses péchés. Et donc il a mis fin à ses jours. Je trouve cette histoire intéressante parce que on voit bien que le mal était enraciné. À un moment donné, il est devenu quelqu'un hautain qui jugeait les autres, et c'est une autre forme de mal. Si on était honnête, avec nous-mêmes. Qui n'a pas jugé quelqu'un d'autre ici? Qui n'a pas regardé à un moment donné quelqu'un d'autre avec un regard hautain pour dire, ah, regarde ce comportement. Moi, je ne ferai pas ça, moi. Je ne suis pas comme lui. Ah, moi. Et ensuite, vous faites autre chose. On est tous des hypocrites, hein. On est tous des pharisiens. On est tous dans le même panier. On est tous perdus. Alors, la question reste la même. Comment se fait-il que nous, les chrétiens, on ne peut pas vaincre toutes ces tendances? Pourquoi, nous, les chrétiens, on ne voit pas indifférence parfois avec les gens de ce monde? Il y a deux questions qui peuvent se poser pour chacun de nous pour voir si on est sur les bonnes ou les mauvaises voies. La première question, c'est une question par rapport à Dieu, la deuxième par rapport à l'être humain autour de vous, l'humanité. Première question, est-ce que je suis reconnaissant dans toutes circonstances? Richesse, pauvreté, en prison, maladie, bonne santé, tout ce que j'ai, est-ce que je suis toujours, si j'ai rien, je suis toujours reconnaissant envers Dieu? Sachant que rien ne peut me séparer de son amour. Si vous dites non, voilà, il y a un problème spirituel. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a plus à avoir d'ascendance dans votre vie. Et deuxième question, par rapport à l'humanité autour de vous, est-ce que parfois je me trouve avec l'esprit envieux? Envieux dans le sens le plus basique, hein. Je vois quelqu'un qui a plus que moi et je le veux. Ou quelqu'un qui a meilleure position dans un restaurant où je travaille. Ou quelqu'un qui a mieux réussi ses études et je l'en veux. Et quand quelqu'un trébuche qui était devant vous, vous prenez plaisir quelque part. Ah oui, enfin, hein. Ah, c'est bien. J'ai perdu mon petit ami, là. Ah, elle aussi, ah, c'était bien, comme ça, la misère, ensemble, on est tous les deux dans la misère. Hein? N'est-ce pas que on est envieux, dans une manière négative ou, soi-disant, positive. On n'est pas reconnaissant. Et donc, ça montre que notre spiritualité est très, très charnelle. Nous disons, oui, j'aime le Seigneur, je le confesse, ou peut-être vous ne confessez pas le Seigneur encore, mais vous trouvez dans une situation où votre chair est... Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, alors? Si on continue à lire la Bible, et on va être découragé, parce qu'on n'arrive pas à faire ce que la Bible nous demande de faire. Et donc, on baisse les bras. Ou, par un acte de volonté, on va tellement réussir qu'on devient un pharisien, capable de juger les autres, parce que je suis mieux que les autres, et les autres devraient être comme moi, avec plus de discipline, plus de travail, avec plus, on va sortir de notre impasse. Mais dans les deux cas de figure, c'est l'échec devant Dieu. Alors, nous savons, comme Alex tout à l'heure nous a rappelé, que Christ est le sacrifice une fois pour toutes. Il est devenu péché pour nous. Et il est mort non seulement pour nous pardonner, pour nous libérer de cette impasse. Et c'est pourquoi, en chapitre 8, le verset 10 devient le clé de l'énigme pour moi. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause de péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et donc, on voit à ce moment-là, le Christ a opéré quelque chose au fond de notre être, et maintenant, animé par le Saint-Esprit, on a appris à vivre en toutes circonstances, sachant que notre moi est mort, notre corps est mort, mais notre esprit vit en Christ. Et je n'ai plus envie, je ne m'attriste plus le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu parle à travers Paul dans d'autres passages, vous pouvez avoir une joie et une paix à l'intérieur de votre âme et votre esprit, en toutes circonstances, qui se passe même votre intelligence. Vous pouvez être en paix, en joie, n'importe où et à quel n'importe moment. C'est la promesse de Dieu. Cette réalité-là, cette réalité surnaturelle dans nos vies, c'est la vie d'une chrétienne. Et le seul moyen de l'obtenir, c'est la réalité de dire, Seigneur, mes mains sont vides, je ne peux rien faire pour me transformer. Je vous donne une anecdote personnelle pour vous expliquer ça. Moi, j'étais, comme j'ai dit, je suis New-Yorkais. J'ai grandi dans la ville à Brooklyn. Beaucoup, beaucoup de luttes, des bagarres dans les rues, entre les garçons. On avait des bandes dans chaque rue, et on attaquait les bandes des autres rues. Et on a bagarré tout le temps. J'entrais avec le nez qui saignait, un bleu autour de l'œil. Et mon père me posait toujours en question. Et l'autre? Ah oui, il a eu pire. Ah, d'accord, ça va. Mais si, par contre, c'était pas le cas, mon père me donnait encore un leçon. Parce qu'il n'a pas voulu que je sois malmené dans la rue. Donc, défends-toi. Et j'étais le premier né, et il a fallu veiller sur mes frères, etc. Et garder cette unité entre nous, bien que nous, des frères, on se bagarrait aussi. Et j'ai devenu très compétitif et très dur. J'ai quitté les États-Unis d'Amérique pour des raisons politiques et philosophiques, parce que l'FBI avait un dossier sur moi. Et j'étais devenu vraiment révolutionnaire. Et un jour, je me trouve dans les Alpes suisses, dans une communauté dite l'abri. Et le Seigneur m'a sauvé. Mais, oui, d'accord, j'ai confessé le Seigneur et j'étais devenu son fils. Mais mon comportement n'était pas changé le lendemain, hein. Demandez à ma femme. Et je m'étais très, très facilement emporté. Très facilement utilisé des gros mots. Et ça décourageait ma femme. Elle est très, très réservée, très douce comme femme. Très introvertie, elle s'exprime pas facilement. Et j'ai écrasé ma femme par mon comportement. Et chaque fois, c'est reparti. Alors, une soirée, j'étais emporté. Et ensuite, je suis parti faire des visites pastoraux. Hein? J'étais devenu Dr. Jekyll. Après avoir été M. Hyde avec ma femme et mes enfants. Alors, j'entre le soir, vers minuit. Mais je couche pas terre. Mais je dis, Seigneur, tue-moi. Ou transforme-moi. Je bouge pas. Et j'ai prié. Je dis, Seigneur, j'ai fait mal. J'ai péché contre toi, bien sûr, mais ça, tu es courant de ça. Je le fais tout le temps. Mais là, j'ai fait tellement mal à ma femme et mes enfants. Et chaque fois, il me pardonne. Fais quelque chose, Seigneur. Je peux pas. 10 mois plus tard, ma femme me dit, je veux te dire quelque chose. Tu ne t'es pas remporté depuis 10 mois. Je dis, quoi? Comment tu le sais? Il sort son agenda et dit, parce que chaque fois, je vais marquer. Elle garde les femmes, on a des disques durs qui sont pas effacés facilement, hein. Oui, t'as fait ça encore! Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 30 ans, tu as fait ça déjà, tu le refais, là. Quoi? Mais c'est très bien, madame, merci. Alors, elle dit, dis-moi, tu n'as pas refait la même chose. Et d'un, quand même, éclair, le Seigneur m'a rappelé de ma prière. J'étais un homme brisé. J'ai un cas amassé, un couple en instance de divorce. Et l'homme, il est égocentrique. Il écrase sa femme. Et je lui dis, quel est ton problème? Il dit, oui, c'est sa faute, c'est ma femme, c'est le travail, c'est le misère, c'est l'argent. Et chaque fois, je dis, non. Alors finalement, il dit, exaspéré, alors, où est le problème? Je dis, là, devant moi. C'est toi le problème. Regardez, quoi? Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Mais moi, j'ai dit, je te parle comme ça, tu es le problème. Tu es aveugle, tu es en train d'écraser ta femme, tu es en train de raconter ce que tu as semé, et tu es en train de perdre ta femme et tes enfants. Tu es prêt à m'écouter maintenant? Réponds-toi. Pas devant Dieu, oui, mais avec ta femme. Tu n'as jamais chéri ta femme. Oui, mais tu comprends pas. D'accord, au revoir. Non, reste là, dis-moi comment je peux. Mais c'est dur pour lui, parce que son orgueil. Et je dis à ce garçon, tu n'es pas brisé encore. Et puisque je peux parler en connaissance de cause, c'est la grâce de Dieu qui m'a brisé. Oui, m'a transformé. Mais c'est pas parfait. Demandez à ma femme. Demandez à mes amis qui sont là, ils vont vous dire. Non, il est loin d'être parfait. Mais il y avait un changement radical. Et effectivement, à partir de cette date, toutes circonstances étaient relativisées pour moi. Parce que Christ était en moi, l'espérance de la gloire. J'étais animé par son esprit. Une manière différente. Et je ne peux pas me vanter. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, ce n'était pas un effort de faire plus d'efforts, ni de changer de cap en remplaçant les mauvaises activités avec des activités positives. C'était de plaider la grâce de Dieu. Dans un instant, nous allons partager le pain et le vin de ce repas qui représente le corps du Christ. Son sacrifice comme le pain et le vin nous donnent vie, Christ, à travers ces aliments, est là, de manière symbolique, par son esprit, de nous donner une vie nouvelle. Si vous venez prendre part de ça, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes membre du corps de Christ. Si vous connaissez pas le Christ, il faut s'abstenir, mais on va parler dans un instant. Mais il vous donne ça pour vous rappeler la réalité, que vous pouvez rien faire sans vous rester attaché au Christ. Ça, c'est Jean 15. Et je crains, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous les chrétiens, on a tellement d'habitude de se débrouiller tout seul. On ne vit plus cette double réalité, le monde naturel et surnaturel. De plaider, Seigneur, aie pitié de moi. De vivre une attitude de repentance sans cesse, où les gens te voient comme quelqu'un qui est humble et doux, rempli du fruit de l'Esprit. Bien sûr, on va trébucher, parce qu'on n'est pas encore comme le Christ veut qu'on soit, mais on est en marche. Alors, si c'est votre cas ce soir, vous pouvez vous demander au Seigneur de vous transformer. Vous seul êtes capable de savoir si votre cœur est brisé, ou si vous allez demander à Dieu, « Oui Seigneur, donne-moi ça comme ça, je vais réussir mes études, je vais trouver le nana de ma vie, je vais trouver le garçon de mes rêves. » Si c'est comme ça, en secret, les parents ne vont pas sortir d'ici. Mais si vous dites, Seigneur, aie pitié de moi, transforme-moi, sauve-moi de moi-même. Je n'ai pas le bol. Le Seigneur va attendre, il va venir à votre secours. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la réalité crue de ta parole. Où toutes sortes de caractères à travers la parole ont découvert combien ils étaient perdus, sans espoir. Les grands héros d'autrefois, David, Moïse, Samson, et chacun, à un moment donné, ont tellement péché contre toi, tu les jugeais. Mais les repentances étaient très profondes après. Seigneur, accorde-nous de comprendre qu'on n'a pas besoin de nous transformer nous-mêmes, mais simplement avec des vannes vides, d'accepter ton pardon et ton amour, et de plaider ta grâce, afin que nos cœurs soient transformés, nos attitudes transformées, qu'on soit vraiment des serviteurs devant toi, toujours inutiles, mais au moins des serviteurs qui laissent briller nos lumières dans un monde de ténèbres, et qu'on soit le sel de la terre. Merci Seigneur, en ton nom, Amen.